cela étant, je crois que je vais prendre le micro à la main. Hop. Être contre. Contre l'adultère, contre le mariage pour tous, contre l'avortement, contre l'euthanasie. Être pour les rites, pour les traditions, se faire baptiser, aller à la messe ou au culte le dimanche matin, faire ses prières, lire sa Bible religieusement, réunir la famille à Noël autour d'une crèche avec un petit Jésus en plâtre, la réunir à nouveau à Pâques autour d'un agneau qui n'a pas demandé à être là. Prêcher la pureté et même la sainteté en étant empêtré dans des scandales à faire pâlir de honte le diable lui-même. L'Église. Je ne serais pas surpris que quelques-uns d'entre vous soient venus à reculons ce matin. Et je voudrais vous dire qu'en vrai, ce ne sont ni les rites, ni les valeurs, ni les traditions, ni les opinions qui nous réunissent. On en a quelques-unes, mais ce n'est même pas sûr qu'on ait tous les mêmes. Ça n'est même pas la sainteté à laquelle nous aspirons pourtant, encore faut-il bien la définir, qui nous réunit. Non, ce matin, je voudrais vous présenter Jésus. Et on va le faire à travers un texte que je trouve magnifique, qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, et on va lire les versets 1 à 30. Jean, chapitre 4, versets 1 à 30. Les pharisiens entendent dire « Jésus a plus de disciples que Jean et il baptise plus que Jean ». Mais en fait, Jésus ne baptise personne, seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Or, il faut qu'il passe par la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. » Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, alors je n'aurai plus soif, je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire « je n'ai pas de mari. » En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres, samaritains, ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui répond, « Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer en esprit et en vérité, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples reviennent, ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» ou « Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ?» Alors la femme laisse son récipient à cet endroit, elle part à la ville et elle dit aux gens « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est peut-être le Messie. » Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, nous te remercions pour ta parole parce qu'elle est lumière et vie. Nous avons besoin chacun de la recevoir et nous savons qu'il y a en nous des résistances. Je te prie ce matin de faire tomber les résistances pour que ce que tu as à dire à chacun ici puisse être entendu, non seulement avec la tête, mais avec le cœur, avec les tripes, et que ça nous mette en mouvement à ta suite, parce que ta parole est une parole de vie. Au nom de Jésus, amen. Le verset 4 nous dit « Il faut que Jésus passe par la Samarie ». Sur la carte, c'est vrai, il quitte la Judée qui est ici, il veut aller en Galilée qui est ici, et la Samarie est là. Donc, il faut passer par la Samarie. C'est exact. Sauf que ça n'est pas ce que faisaient les Juifs habituellement pour aller de Judée en Galilée. On l'a lu au verset 9, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Pourquoi ? Eh bien parce que parmi les différentes crises historiques qui ont traversé le pays, il y en a une qui a laissé des traces durables. Au début de l'histoire du peuple d'Israël, il y avait un seul royaume, le royaume d'Israël. Et puis ce royaume s'est fracturé en deux, avec d'un côté le royaume du Nord, au Nord donc, qui a gardé le nom de royaume d'Israël et qui a pour capitale Samarie. Donc Samarie, c'est à la fois une ville et une région. Voilà. Et puis, de l'autre, le royaume du Sud, qui est appelé aussi royaume de Juda et qui a pour capitale Jérusalem. Je ne vais pas vous faire un très long cours d'histoire, mais en 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord est attaqué et il est vaincu par l'Empire assyrien. Et l'empereur d'Assyrie va faire déporter de nombreux habitants de Samarie et il va faire s'installer en Samarie des personnes issues de 5 tribus babyloniennes qui vont venir là avec leurs croyances et leurs idoles. C'est une histoire qu'on peut lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17. Et chacune de ces tribus a son dieu, nous dit le livre des Rois. Et comme dans ce polythéisme ambiant, ils ne sont pas une divinité près, ils vont aussi adopter le dieu d'Israël comme une divinité de plus. Et donc avec le temps, dans cette région de Samarie, va se développer une espèce de blougi-boulga de croyances diverses, avec des autels dressés à différentes divinités. Pour les Juifs qui sont sur le reste du territoire, ça, c'est pas possible. C'est une abomination. Ces gens-là ne croient plus dans le Dieu d'Israël tel qu'il se présente dans la Torah. Ces gens-là ne sont plus des frères. Ce sont même plus des cousins. Ce sont des ennemis avec lesquels les Juifs ne veulent avoir aucun contact. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils veulent aller de Judée en Galilée, ils font ça. Y contourne. Seulement, nous dit le texte, Jésus, lui, il faut qu'il passe par la Samarie. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il passe par la Samarie ? Qu'est-ce qui le pousse par là-bas ? Il y a deux raisons pour lesquelles il devait y passer, la petite histoire et la grande histoire. La petite histoire, c'est que Jésus devait rencontrer la Samaritaine. Pour nous, ce récit est une scène, somme toute, assez ordinaire. On dirait un homme qui retrouve une femme autour de la machine à café qui taille un brin de causette. Un brin de causette un peu perché, mais un brin de causette tout de même. Mais en fait, ce qui se passe ici, et je crois qu'on l'a déjà senti un petit peu, est absolument subversif. Jésus, ici, explose tous les codes de bienséance de son époque. Il n'en rate pas une, parce que cette femme de laquelle il s'approche, c'est pas n'importe quelle femme. Elle cumule tout en sa défaveur. Cette rencontre n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, on l'a dit, elle est samaritaine, et Jésus est juif. Et rien que ça, c'est déjà suffisant pour que la situation soit complètement improbable, pour ne pas dire scandaleuse. Et la femme ne s'y trompe pas, on l'a vu, hein. Comment ? Toi, un juif ? Toi, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine ? Toi qui viens d'un peuple qui me méprise, toi qui en principe ne devrais même pas vouloir croiser mon regard, tu me demandes à moi un service ? Or, non seulement elle est samaritaine, mais en plus, elle est seule autour de ce puits. Alors là aussi, nous, on voit a priori aucun problème à ça, mais dans la culture de l'époque, un homme qui s'approche d'une femme seule, c'est pas pour lui parler de la couleur de l'eau du puits. Et d'ailleurs, aucune femme ne va seule au puits, surtout à midi, l'heure la plus chaude de la journée. Si cette samaritaine est seule, c'est parce qu'elle est considérée comme une femme de mauvaise vie. Elle est mise à l'écart par les femmes de son village. Rendez-vous compte, cinq maris successifs, et maintenant un sixième avec qui elle n'est même pas mariée. Ça ne respire pas vraiment la stabilité, ça, ni la fidélité. S'il y a bien une femme que les religieux juifs auraient évité, c'est elle. Seulement voilà, il fallait que Jésus, un rabbi, un maître, passe par la Samarie. Il fallait qu'il rencontre cette femme. Et pour la rencontrer, il ne recule devant aucune barrière, ni sexiste, ni ethnique, ni sociale. Il ne craint pas pour sa réputation, il ne se pose pas la question du « qu'en dira-t-on ?» Il devait passer par la Samarie parce qu'il y avait là, au puits de Jacob, une femme méprisée de tous qui, au fond d'elle-même, avait soif d'autre chose que de l'eau du puits. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. » La femme samaritaine se rend compte qu'elle n'est pas en face de n'importe qui. Il lui a dit des choses sur sa vie qui sont absolument exactes. Il a lu en elle comme dans un livre ouvert. Mais elle ne distingue pas encore qui il est vraiment. Un prophète, ça oui. Un enseignant, sans doute. Alors, tant qu'à avoir un juif sous la main, allons-y pour débattre d'un vieux contentieux. « Nos ancêtres samaritains, dit-elle, ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous, les juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Et que répond Jésus ? En substance, il répond, « Mais c'est fini tout ça. » Il n'y a plus de « vous, les juifs, et nous, les samaritains. » Il n'y a plus de « cette montagne-ci » ou de « Jérusalem. » Il n'y a plus de « vous, les femmes, et nous, les hommes. » Le temps arrive, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et là, Jésus révèle à cette femme-là, quelque chose qu'il n'a même pas dit à ses propres disciples. Le Christ, c'est lui. L'envoyé de Dieu annoncé par les prophètes et attendu par les Juifs comme par les Samaritains, c'est lui. Et cette femme, elle est touchée. Elle est bouleversée. Et on le sait parce que celle qui était venue chercher de l'eau au puits repart sans sa jarre. Elle n'a plus soif. Elle n'aura plus jamais soif. Et elle court jusqu'au village pour annoncer celui qu'elle vient de rencontrer. Et c'est là que la petite histoire de la Samaritaine rejoint la grande histoire du monde. Parce que son histoire à cette Samaritaine est intimement liée d'abord à celle de son propre peuple. Vous vous rappelez, en Samarie, des personnes issues de 5 tribus babyloniennes sont venues avec leurs croyances et leurs idoles. Chacune de ces tribus a sa divinité, et ils en adoptent une de plus, le Dieu d'Israël, comme une divinité parmi les autres. 5 plus 1, le compte est bon, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Il y a une dimension prophétique dans la vie de cette femme. Peut-être bien qu'elle a été adultère, mais pas plus que les autres. Pas plus que les autres. L'eau vive qu'elle vient de boire aux lèvres de Jésus n'est pas que pour elle. Elle est pour la Samarie tout entière. Alors la voici envoyée, comme poussée par l'Esprit Saint, et elle va poser le premier geste de la grande réconciliation du monde avec Dieu. Cette grande réconciliation devait commencer par la Samarie. Et là, je vais devoir poser le micro. 600 ans plus tôt, du coup, je vais parler plus fort, un prophète, Ézéchiel, disait ceci en Ézéchiel chapitre 37. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, « Toi, l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus ces mots, « Juda et les Israélites de ce royaume. » C'est écrit petit, peut-être pour ceux du fond, mais c'est écrit « Juda » dessus. Juda, c'est là. Ensuite, prends un autre morceau de bois et écris dessus « Joseph » ou « Éphraïm ». Alors là, je vous le traduis, « Éphraïm », c'est la même chose qu'Israël. Israël, donc, c'est le royaume du Nord. Mais les deux morceaux de bois, hop, c'est un peu technique, mais je vais y arriver, bout à bout, pour qu'ils forment un seul morceau dans ta main. Les gens de ton peuple vont te demander, explique-nous ce que cela veut dire. Tu leur répondras que moi, le Seigneur Dieu, je leur annonce ceci. Je vais prendre le morceau de bois qui représente Joseph et les Israélites de ce royaume. Je vais le mettre avec le morceau de bois qui représente le royaume de Juda. Et dans ma main, tous deux formeront un seul morceau. Ce qui nous est décrit là, c'est la réunification en un seul peuple de frères devenus ennemis. Je ferai de vous un seul peuple sur les montagnes d'Israël. Vous aurez tous le même roi. Vous ne formerez plus deux pays et vous ne serez plus divisés en deux royaumes. Vous ne vous rendrez plus impurs en adorant vos faux dieux, en commettant des actions horribles et toutes sortes de fautes. Je vous libérerai de toutes les infidélités que vous avez commises envers moi. Je vous rendrai purs. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous aurez un roi semblable à mon serviteur David. Il sera le seul berger pour vous tous. » Ce mouvement de réunification et de réconciliation, les disciples vont le poursuivre après l'ascension de Jésus. Acte 8 nous dit que le premier endroit où ils vont se rendre une fois sortis de Jérusalem, c'est la Judée, évidemment, parce que Jérusalem est en Judée, donc quand on sort de Jérusalem, on est en Judée, et la Samarie. C'est là que vont aller les disciples en premier. Un peu plus tard, ils se rendront compte d'ailleurs que ce grand mouvement de réconciliation, ça n'est pas seulement pour les Juifs, ce grand mouvement s'étend à tous les peuples, toutes les nations. Voilà le grand projet de Dieu pour l'humanité, réconcilier l'homme avec lui-même et les hommes entre eux. 2 Corinthiens 5 nous dit « Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde. » Dieu, le monde, pour ceux qui sont au fond et qui n'ont pas leurs lunettes. C'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Juste. Oui, juste. Je rapproche le micro, normalement ça devrait s'entendre mieux. Non pas parfait et sans péché, mais juste, parce que Jésus a payé le prix de la condamnation qui pesait sur nous. Il a pris sur lui notre péché et il nous a revêtus de sa justice. Et c'est complètement immérité. C'est un cadeau immense à la mesure de l'amour de Dieu pour nous. Celui qui prend conscience de ça tombe à genoux. Il demande pardon pour ses fautes et il remercie ce Dieu qui a pris sur lui le poids de la condamnation et l'a pardonné sans contrepartie aucune. Et c'est parce qu'il nous a aimés le premier et sans condition, c'est parce que nous avons vécu dans notre corps, notre âme et notre esprit cet amour du Christ que nous voulons marcher à sa suite et aimer comme nous avons été aimés. Pardonner comme nous avons été pardonnés. Guérir comme nous avons été guéris, désaltérer comme nous avons été désaltérés, ressusciter les morts comme nous sommes passés nous-mêmes de la mort à la vie. Pécheurs, nous le sommes tous. Et oui, l'Église est souvent laide. Certains pensent même qu'elle est pleine d'hypocrites, et j'ai entendu un jour quelqu'un répondre « C'est pas vrai, elle n'est pas pleine d'hypocrites, on a encore de la place. » La question n'est pas là. Nous ne sommes évidemment pas fondamentalement meilleurs que les autres. La question est « Est-ce que tu vis, toi, dans ta chair, cette conscience de ta culpabilité devant Dieu ?» Et peut-être que non. Peut-être que non, au fond. Peut-être que ça n'est pas tant l'Église qui se croit meilleure que les autres que toi, qui te crois meilleur que l'Église, plus vertueux, moins naïf, moins hypocrite. J'ai été de ceux-là. Peut-être que tu penses que tu es juste, que tu sais prendre à coup sûr la bonne route, le bon chemin, la bonne décision, celle qui mène à la vie, plutôt que celle qui te mène sur un chemin de mort. Et si c'est l'opinion que tu as de toi-même, ce message probablement passe à 1000 lieues au-dessus de ta tête. Parce que Jésus n'est pas venu pour sauver les justes, il est venu pour les pécheurs. Mais peut-être aussi que tu sais que tu es pécheur. Peut-être que tu connais tes défaillances. Peut-être que tu sais toutes ces fois où tu as voulu faire le bien et où c'est le mal que tu as fait. Peut-être que tu sais qu'il y a de nombreux moments dans ta vie où tu as pris des décisions que tu croyais justes et bonnes, mais qui en fait t'ont mené droit dans le mur. Peut-être que tu te sens faible, démuni, perdu. Peut-être que ta conscience t'accable et que tu peines à avancer dans la vie. Eh bien, c'est pour toi que Jésus traverse la Samarie. C'est pour toi. Jésus vient au plus près. Pour toi, il n'a que faire du politiquement correct. Il passe outre le regard des autres. Il se moque de sa propre réputation. Parce qu'il ne regarde pas à ce que tu as fait. Il regarde à qui tu es. Une brebis perdue, apeurée, sans berger. Et c'est à toi qu'il vient proposer une source éternelle de vie. Alors, il y a peut-être quelques cyniques qui penseront « Ah, ça c'est un beau discours pour attirer les faibles à soi, pour remplir les bancs de l'Église et les poches du pasteur. » Et c'est vrai que je devrais bientôt changer la Dacia, mais pauvre de moi si c'est là la raison de cette prédication. Je ne parle pas ici de l'Église, et encore moins du pasteur, évidemment. Jésus ne dit pas « Trouve-toi un maître à penser, trouve-toi quelqu'un qui te prendra par la main et te guidera en échange de ta dépendance affective, de ton argent, de ta soumission au pouvoir. » Ceux qui cherchent ça dans l'Église, et il y en a qui cherchent ça dans l'Église, ont encore besoin de rencontrer Jésus. Et les pasteurs qui proposent ça, et il y en a aussi, sont des voleurs et des usurpateurs. Parce que Jésus dit tout l'inverse. Il dit « N'appelle personne maître sur la terre. Il n'y a qu'un seul maître, il est dans les cieux. N'appelle personne père sur la terre. Il n'y a qu'un seul père, il est dans les cieux. Réconcilie-toi avec ce père-là et tu n'auras plus de maître sur la terre, tu n'auras que des frères. Et le père fera de toi un ambassadeur de son royaume. Il fera rejoindre la petite histoire de ta vie à la grande histoire épique de la réconciliation du monde avec Dieu. Une histoire à laquelle il te fera prendre part. » Je vais prier. Seigneur, en vérité, tu es un Dieu incroyable. Notre regard sur les personne est tellement différent du tien. Nous sommes tellement promptes à juger, à condamner, à nous détourner, à changer de trottoir, à éviter les regards. Et toi, celui qui est méprisé, celui qu'on ne veut pas croiser, qu'on ne veut pas rencontrer, celui qui est perdu, qui a pris toutes les mauvaises décisions possibles dans sa vie, c'est vers lui que tu te diriges, vers elle que tu te diriges. Tu viens et tu l'abreuves. Seigneur, d'abord, j'ai envie de te demander pardon. Pardon pour notre péché, pour le mien et puis pour le péché collectif de l'Église, qui a tellement de mal à s'approcher de la Samaritaine, Seigneur, on doit probablement le confesser. Nous avons du mal à nous approcher de la Samaritaine. Toi, tu la rejoins. Tu es avec elle, auprès du puits. Tu parles à son cœur. Tu l'étonnes de ton audace. Parce que on ne peut pas imaginer que tu poses ton regard sur nous. Toi, tu es saint, nous sommes pécheurs. Et pourtant, tu le fais. Tu viens à notre rencontre, et malgré toutes nos défaillances, toutes nos faiblesses, tout notre péché, toute cette persévérance qu'on a à ne pas prendre les bons chemins, la bonne direction, celle qui nous mène à la vie, toi, tu nous lâches pas, tu nous abandonnes pas, tu viens à notre rencontre. Seigneur, c'est évident qu'il y a plein de Samaritaines ce matin dans cette salle. Toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais pourquoi ils sont là. Tu sais pourquoi chacun d'entre nous, nous sommes là. Tu sais qui a besoin d'entendre ce message. Seigneur, je te prie de parler au cœur de chacun. Nous, on est trop faibles pour ça. On ne sait pas faire. Mais toi, tu es un Dieu qui sonde les profondeurs. Toi, tu connais nos vies à chacun, les détails de nos vies. Toi, tu es capable de dire à la Samaritaine, c'est vrai, t'as pas de mari, en fait, t'en as eu 5, et celui-là, c'est pas le tien. Nous, on ne sait pas toujours faire ça, en tout cas pas si tu ne le révèles pas. Mais je te prie vraiment de rejoindre chacun au plus profond de ses faiblesses, de ses peurs, de ses défaillances. Et je te prie d'apporter là cette parole de vie qui sauve, qui désaltère pour toujours. Seigneur, cette parole, elle a été semée ce matin. Je te prie de la faire fructifier maintenant. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Exact. Tout à ma prédication, j'ai failli oublier quelque chose d'important. On a parlé de paroles de vie. On croit que cette parole, voilà, c'est pas seulement un vieux texte de l'Antiquité, comme il y en a tant d'autres. C'est même pas qu'on croit, c'est qu'on sait que cette parole qui est contenue dans la Bible, qui n'est pas un livre, mais une bibliothèque entière, c'est une parole vraiment qui nous fait passer de la mort à la vie. Non seulement un jour comme celui-ci, un jour de baptême, mais en fait, tous les jours, c'est une parole qui nous nourrit, c'est une parole qui nous régénère, qui nous fait du bien, qui vient nous chercher là où nous sommes, dans nos faiblesses, et qui nous relève et qui nous aide à aller de l'avant parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, on a pour habitude, les jours de baptême, d'offrir cette parole, même si en général nos baptisés l'ont déjà, puisqu'on l'a étudiée ensemble. Mais je dirais de façon symbolique, et un peu plus que symbolique sans doute, on a à cœur de pouvoir offrir une Bible à nos baptisés. Donc c'est ce que je vais faire, mais j'essaye de les repérer. J'en vois ici, et la deuxième ici. Et ben voilà, si vous approchez, c'est encore mieux. Ça m'aide. Voilà, avec une petite dédicace dedans pour se remémorer toute sa vie, ce jour où vous avez été marqué par le baptême et par l'Esprit Saint. Je voudrais prier pour vous, si vous voulez bien. Seigneur, c'est vraiment un jour de joie et un jour de victoire aujourd'hui. C'est un jour qui vient bâtir un autel à ta gloire dans la vie de Cassandre et de Lana. C'est un jour auquel elles pourront se référer toute leur vie. C'est un jour où elles ont été scellées par l'Esprit Saint, en ton nom, Jésus. C'est un jour où, un sceau est posé sur elles. Et il est à la vue de tous. Il est à ta vue, Seigneur, puisque c'est toi qui l'as posé. Il est à notre vue, à nous, on a entendu les témoignages, on a vu ses baptêmes, et il est à la vue aussi de l'ennemi et des anges déchus qui viennent nous tourmenter. Seigneur, c'est le sceau de la victoire. Ça n'empêchera pas les épreuves. Ça n'empêchera pas l'ennemi de venir tourner autour. Mais en ton nom, maintenant, elles ont l'autorité pour chasser l'ennemi, pour se défendre, pour prendre autorité sur lui, parce que tu les amènes à la liberté. Tu les maintiens dans ta liberté. Seigneur, tu vis en elles, tu les remplis de ton Esprit Saint, et toi, tu as vaincu l'ennemi à la croix. C'est en toi qu'elles trouvent maintenant toute leur force. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Tu veux dire ?
J'aimerais partager un verset avec vous. Hier, il y a un verset qui m'a touchée. C'est dans le livre Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Soyez bénis.
Je vais appeler la personne qui fait les annonces aujourd'hui.